Jérémy, c'est un géant du baseball qui nous a quittés à l'âge de 83 ans.
Oui.
Le grand Frank Robinson n'est
oui.
plus.
Oui, Frank Robinson, j'ai eu la chance, et je dois le dire, la chance de couvrir les Expos durant les 4 saisons où il a été le gérant de l'équipe. Bon, disons qu'il n'était pas aussi bon qu'un gars comme Philippe Alou, mais il a quand même gagné le titre de gérant de l'année en 1989. Mais, écoute, les histoires qu'il avait à partager avec nous, parce que il faut comprendre que Frank Robinson a été un des plus grands joueurs de l'histoire du baseball, et il a joué à une époque où il y avait toujours la ségrégation aux États-Unis. Donc, il a été victime de racisme et tout cela durant sa grande carrière. Mais écoutez, là, quand je vous dis, là, 14 fois au match des étoiles, il a gagné 2 séries mondiales. Il a été le premier joueur à être joueur le plus utile dans la nationale, dans l'américaine. Il a été joueur le plus utile de la série mondiale. Il a gagné la triple couronne, des gants dorés, le titre de recrue de l'année. Il n'y a rien qui n'a pas gagné, Frank Robinson. Rien.
Un voltigeur remarquable et avec une fiche offensive de 586 circuits et 1812 points produits. Dans une carrière phénoménale,
oui.
Il a surtout connu ses plus grands succès avec les Orioles de Baltimore. Je me rappelle, j'étais tout jeune, petit garçon, je suivais le baseball. Et en 66, il avait cogné 49 circuits et obtenu 122 points produits.
Écoute,
il est venu à un circuit près d'en frapper 50.
Quand je te parle de tous les titres de joueurs les plus utiles, il ne faut pas oublier qu'il a joué à l'époque de Hank Aaron, de Willie McCovey. Willie Mays, Philippe Alou.
Ouais.
Il y en avait d'autres bons joueurs là, à l'époque et il a tout raflé.
Roberto Clemente.
Un gentil monsieur, Frank Robinson, qui était toujours très généreux avec son temps. Et je lui ai posé mille et une questions sur sa carrière et sur l'histoire du baseball. Et il m'a toujours répondu. C'est un grand fan des Lakers de Los Angeles aussi.
Et malheureusement, Jérémy, ouais. Il a été associé à la pire période des Expos.
Oui, ben oui, parce qu'il a été embauché par le baseball ouais. majeur lorsque Jeffrey Loria a vendu les Expos et que le baseball était, les Expos étaient sous tutelle. Ben c'est là que Bud Selig a fait appel à Frank Robinson pour venir gérer cette équipe-là.
On doit s'attendre à tout un match ce soir au Centre Bell
oui.
avec une grosse équipe, un grand défi pour le Canadien qui fait face aux Jets de Winnipeg.
Oui, si vous pensez que le Canadien connaît une bonne saison, dites-vous que les Jets de Winnipeg ont plus de 2 fois plus de victoires que défaites en temps réglementaire. 34-16 jusqu'à maintenant, depuis le début de la saison. Et non seulement cela, ce soir, ils retrouvent le grand Dustin Byfuglien qui leur a manqué, bien sûr, au niveau physique, mais aussi sur l'avantage numérique. Donc, ils auront, une énergie supplémentaire. Et ce sera aussi le tout premier match de Brandon Lemieux, fils de Claude Lemieux, à Montréal, au Centre Bell. Il nous a dit ce matin qu'il a revu des images des meilleurs moments de son père dans l'uniforme du Canadien de Montréal récemment. Et il a dit, en tout cas, vous allez l'entendre là, dans le petit extrait que je vous fais entendre, qu'il est en constante communication avec son père, avec son oncle Jocelyn aussi. Et il se dit choisi de pouvoir les avoir dans sa vie.
You know, he helps me with my game. I've always tried to play similar to the way he played, and he's helped me every step of the way. This was the first time he did it. This is where when he was young. This is where, you know, he made a name for himself. It was a big, you know, deal for him, and you know, they were able to win that first year, and that's kind of what put his foot in the door. He scored some big game winners in that playoff run, and that made him into the player that he turned out to be.
Alors, il a parlé des buts marqués en prolongation lors de son année recrue en 1986. Il n'avait que 18 ans.
Dont ce but dans un 7e et dernier match contre les Whalers de Hartford. Et ça avait permis aux Canadiens de poursuivre jusqu'à la conquête
de la
Coupe Stanley et avec Jean Perron.
En tout cas, très gentil ce Brandon Lemieux qui nous a donné pas mal de temps ce matin. Chez le Canadien de Montréal, Thomas Tatar va jouer ce soir. Il a raté le dernier match à cause d'un virus, mais là, tout va bien.
Alors, l'Impact a bien terminé cette première tranche du camp d'entraînement parce que l'Impact revient et repartira vers la Floride.
Oui.
Victoire de 2-0 contre Nashville.
Oui, on avait donné repos à Ignacio Piatti. Malgré cela, l'Impact a gagné 2-0. Donc, Zakaria Diallo et Harry Novillo ont tous deux marqué leur premier but dans l'uniforme de l'Impact de Montréal. C'était contre Nashville, un club qui fera le saut en MLS la saison prochaine. Donc, 2-0, ça se termine. Maintenant, les joueurs de l'Impact retournent vers Montréal aujourd'hui et demain, ce sera le lancement lancement officiel du nouveau maillot de l'équipe.
Et selon un site à potins italien de football, l'Impact aurait acheté les droits d'un jeune ailier droit nigérian.
Exactement. Il n'a que 21 ans et son nom, c'est Orji Okwankwo. Il a joué avec Bologne, mais il a aussi été prêté à Brescia. Il n'a que 21 ans et il a disputé en tout 43 matchs chez les pros jusqu'à maintenant. Il n'a marqué que 4 buts, mais on pense qu'en MLS, il pourrait bien se développer. Donc, c'est vraiment, là, selon l'article, on l'aurait vraiment acheté. Donc, il appartiendrait à 100% à l'Impact de Montréal. On espère avoir une confirmation sous peu.
Alors, évidemment, Jérémy, tu suis toujours l'évolution des stades à Montréal. Oui. Je dis des stades parce qu'il y a le stade olympique, le remplacement du toit et peut-être aussi un futur stade qui pourrait accueillir le retour des expos.
Oui.
Alors, toi, tu dis qu'il faut avoir une vision à long terme en ce qui a trait au stade olympique.
Oui, je veux prendre l'exemple du BC Place à Vancouver, qui était un stade, disons-le, qui ne conformait plus au stade moderne. Et on a injecté plus de 500 millions de dollars, il faut le mentionner. Mais on a refait l'extérieur du stade, le revêtement. On a refait les salles de bain. On a refait les loges, les places même assises, le terrain, la toiture. Et aujourd'hui, le stade, il est ultra moderne. Mais il sert aux Lions de la Colombie-Britannique et aux Whitecaps de Vancouver. Maintenant, on veut injecter de l'argent dans le stade olympique pour le renouveler, mais on va s'en servir pour quoi exactement? Il faut essayer de penser vers l'avenir et se dire, bon, je prends toujours l'exemple du baseball, on veut avoir un stade, un nouveau stade de baseball et le commissaire insiste pour que le stade soit au centre-ville. Mais si on pouvait garder la tour, mais transformer le stade olympique en parc de baseball, donc prendre cet espace-là et transformer cela en parc, mais en véritable parc, là, je dis, on enlève le toit, on défonce les murs du champ extérieur, on refait l'extérieur.
Parce que le gros problème, c'est le toit. Et comme il n'y a pas, comme tu dis, à Vancouver, j'ai visité hier, l'été passé, le BC Place, ils ont fait un travail extraordinaire.
Absolument.
Ils ont tout rénové.
Oui.
Tout rénové. Mais comme là, il y a deux équipes professionnelles
qui jouent
à Vancouver, les Whitecaps et les Lions. À Montréal, il n'y a pas de plan à long terme.
C'est ça la question.
Alors, tu remplaces, mettons, la toiture. Mettons un toit amovible en
parfait.
Plus. Bon, ben parfait. Ça va coûter des centaines de millions.
Oui.
On s'entend là-dessus. Mais pour servir à quoi ensuite?
Mais après la Coupe du Monde, si on a des matchs, on fait quoi?
Pour la Coupe du Monde, le toit doit être ouvert. C'est obligatoire.
Exactement. Donc, on peut enlever le toit, ça, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a trois franchises de sport qui potentiellement auront besoin d'un stade éventuellement. On regarde, la MLS avance à la vitesse grand V. Paul, tu regardes les stades qui se bâtissent. Pendant combien de temps l'Impact va pouvoir survivre au stade Saputo? Est-ce qu'on pourrait pas penser revamper complètement le stade olympique en enlevant l'anneau technique et faire de ce stade-là un véritable stade où les Alouettes et l'Impact pourraient jouer 40 000 places, pas plus, mais ultra moderne.
C'est pas les expos.
Ben là, c'est soit un ou l'autre.
Hein?
Donc, si on fait un parc de baseball, ça pourrait pas être un stade de football ou de soccer. Mais il faut essayer d'avoir une vision à long terme et dire qu'est-ce qu'on veut faire avec ce stade-là à long terme. Parce qu'il faut essayer de régler deux problèmes d'un coup. Parce que si on construit un nouveau stade de baseball au centre-ville, mais on a toujours le problème du stade olympique, on n'est pas plus avancé.
Politiquement, Jérémy, politiquement, c'est le dossier le plus impopulaire qu'un gouvernement veut avoir sur son bureau. Tous les gouvernements précédents, le gouvernement du Parti québécois, même à l'époque de la Rio au début, Claude Charron était responsable, c'était un dossier épineux, c'était la même chose avec les libéraux. Et là, avec la CAQ, on essaie de faire semblant qu'on ne veut pas l'avoir, le problème.
Au lieu de faire ça, on devrait être le parti qui pourra dire dans 20 ans, dans 30 ans, on a réglé ce problème-là, nous.
Oui, mais pour combien?
Ben oui, c'est sûr que ça va coûter beaucoup d'argent. Ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Et juste une petite note pour vous dire que Denis Shapovalov s'est classé cette nuit pour les quarts de finale du tournoi de Montpellier. Et lors de son prochain match, il affrontera le gagnant du duel entre Pierre-Hugues Herbert et Ilya Ivashka. Voilà.
Merci beaucoup, Jérémy. Au retour, Thérèse a parlé à l'animateur de La Voix, Charles Lafortune en pleine forme pour le grand départ de dimanche.